Señoras y señores, queridos amigos, tras la exhibición en las pasadas semanas de nuestros fondos de arte español contemporáneo, que complementamos en esa ocasión con otros procedentes del Museo de Cuenca, abrimos hoy la segunda exposición del curso 1981-1982 relativa a la escultura principalmente europea de la primera mitad del siglo actual. Este tipo de exposiciones colectivas tiene la ventaja de que permite contemplar el conjunto de una época. Este medio siglo de escultura comprende varios movimientos artísticos, estéticos, simultáneos o sucesivos, que rompen abiertamente con el orden establecido de fines del siglo pasado. En la exposición podrán ustedes ver exploraciones, fantasías y heterodoxias renovadoras y fecundas, innovaciones y experimentos sin fin, como dice el famoso verso de Eliot. Es de notar que casi todos estos artistas van a contracorriente de los gustos establecidos y que acaban por imponer sus peculiares estilos. En estos años, 1900-1945, todavía es Europa el centro del arte occidental y en ella se suceden dos guerras totales y la profunda conmoción que significó la Revolución Soviética. Es de notar también que durante todo este periodo no fueron las clases dirigentes quienes impusieron sus ideas estéticas, como había sucedido en los siglos anteriores, sino que es la creatividad contra la cultura establecida la que va a promover los cambios. Todo esto, y muchas más cosas, por supuesto, puede verse en la exposición que hoy presentamos a ustedes. Nuestro deseo en la Fundación Juan Marc de mostrar una panorámica de todo este medio siglo de escultura nos ha animado a reunir este numeroso grupo de obras y autores en una exposición que ciertamente es compleja, pero también creemos que de gran interés. Son casi 40 los autores representados en la exposición y más de 120 las esculturas que la componen. No hemos querido aumentar el número de esculturas por entender que, en alguna manera, la exposición que presentamos es ya bastante completa. En todo caso, hemos tenido en cuenta que la obra de Henry Moore ha sido recientemente exhibida en Madrid, y muy bien, por cierto, que la de Gargallo está siendo exhibida también en estos momentos en Madrid, como ustedes saben, y que nuestra fundación dedicó a Giacometti y a Julio González sendas exposiciones individuales en fechas todavía recientes. Hemos tenido también presente, como no, las conmemoraciones en curso del centenario de Picasso, y en tal sentido podrán ustedes advertir que el número de esculturas de nuestro insigne compatriota es el más elevado de los que componen esta exposición. Llego así, con toda brevedad, al capítulo de agradecimientos que no por obligados son menos sentidos. En primer lugar, vaya nuestro reconocimiento a los más de 40 propietarios que han prestado fondos para esta exposición: museos, galerías y coleccionistas que figuran enumerados en el catálogo y a quienes, en nombre de la Fundación Juan Marc, expreso el testimonio vivo de nuestra gratitud. Quiero también mencionar la valiosísima colaboración que, una vez más, nos ha ofrecido Gustavo Torner, tanto a la hora de elegir las piezas de la exposición como de distribuirlas en nuestras salas de forma didáctica. Gustavo Torner cultiva siempre la pedagogía de la exigencia intelectual y del buen gusto, y creo que todos los espectadores se benefician de su colaboración en nuestra política de exposiciones. Diego Lara, por su parte, ha maquetado el catálogo con la excelente calidad de siempre, y quiero también decirlo así en esta ocasión. Finalmente, y sobre todo, es a la Fundación MAET a quien tengo que dirigir hoy nuestro mayor reconocimiento. Fue la Fundación MAET quien organizó las bases de esta exposición en su sede de Saint-Paul-de-Vence, en Francia, y ha sido la Fundación MAET la que nos ha brindado su apoyo para lograr que las esculturas que entonces elegimos pudieran finalmente venir a Madrid. Hoy se encuentran entre nosotros tres distinguidas representaciones de esta fundación: un grupo de amigos de la Fundación MAET en viaje de turismo de arte por España, a quienes hace un par de días recibimos en el Museo de Cuenca y a quienes hoy damos la bienvenida a nuestra sede de Madrid, confiando en que se encuentren aquí tan cómodos y distendidos como en su propia fundación de San Paul. Además, está también presente el señor Adrián MAET, hijo y sucesor del creador de la fundación, el señor Aimé MAET, recientemente fallecido. Al agradecer su presencia entre nosotros, no puedo menos de elevar mi recuerdo en memoria de su padre, que fue nuestro amigo y que nos ayudó en varias ocasiones, años atrás, cuando la Fundación Juan Marc iniciaba sus primeros pasos en el campo de las exposiciones del arte contemporáneo. Hemos sentido profundamente la muerte del señor Maet, como estoy seguro que lo han sentido también tantos otros españoles que cultivaban su amistad y que se complacían con su ejemplo. Y al final, pero no el último, está también aquí el director de la Fundación Maet, mi colega y viejo amigo, Jean-Louis Prat, que ha sido personalmente nuestra mayor ayuda en esta exposición que hoy inauguramos. Jean-Louis Prat siente una particular atracción por las cosas españolas y siempre es grato tratar con él de cualquier asunto. Él fue el responsable de esta exposición en Saint Paul de Vence y a él hemos acudido para pedirle la introducción de nuestro catálogo y la conferencia inaugural en el día de hoy. Expresándole públicamente nuestro contento por tenerle hoy entre nosotros, le cedo de inmediato la palabra, no sin antes agradecer a todos ustedes y muy cordialmente su presencia en este acto. Nada más, muchas gracias.
Bien, avant toute chose, je voudrais remercier José Luis Yuste de son accueil ici, à la Fondation. Ça n'est pas en effet la première fois que nous venons à Madrid, puisque la Fondation MAG a été présente de nombreuses fois dans cet édifice. Nous avons en effet présenté plusieurs expositions, et je voudrais rappeler ici les expositions de Kandinsky, de Braque et de Giacometti. Et je voudrais également remercier José Luis Yuste de l'hommage qu'il vient de rendre à Aimé Mag. Et Aimé Mag était ici présent il y a 3 ans pour vous parler de Giacometti, de son œuvre et de l'homme qu'il était. Je voudrais remercier la Fondation Marc de son accueil, remercier tous ceux qui ont participé à cette exposition, en particulier José Capa, qui a été le maître d'œuvre, et Gustavo Torner, qui a installé cette exposition ici même. Je vais maintenant essayer de vous parler de cette exposition. J'espère que la traduction sera facile et que je ne parlerai pas trop vite. Alors, l'exposition que vous pouvez voir aujourd'hui retrace l'évolution de la sculpture moderne entre 1900 et 1945. Pourquoi 1900? Eh bien, tout simplement parce que dès la fin du 19e siècle, tout a basculé avec l'apparition de Rodin, qui est le véritable inventeur de la sculpture moderne, et qui occupe dans ce domaine la place qu'occupe Cézanne dans la peinture. Pourquoi 1945 et pas 1950? Simplement parce que la fin de la Deuxième Guerre mondiale marque une rupture profonde, voire totale, dans tous les domaines. C'est vrai dans le domaine politique, c'est vrai dans le domaine social, c'est vrai dans le domaine économique, mais c'est aussi vrai dans le domaine artistique. La rupture est totale même pour les artistes qui ont continué leur œuvre après cette date-là, et désormais tout sera différent, aussi bien pour Giacometti, qui reviendra à une nouvelle forme de figuration, que pour Henry Moore, qui entreprendra dès ce moment-là des œuvres de grande dimension et qui développera ses recherches antérieures. Ce sera également le cas pour Picasso ou Miro, qui fera son œuvre de sculpteur à partir des années 50. Mais c'est aussi le cas pour Gabot, Pevsner, Calder, Lawrence, Smith et bien d'autres artistes. Cependant, pour la plupart de ceux que je viens de citer et de tous les autres sculpteurs qui figurent dans cette exposition, l'essentiel de leur démarche aura été effectué dans la première moitié de ce siècle. Si on avait demandé à la fin de la guerre au public et même à certains conservateurs de musées de citer les noms des sculpteurs importants de cette époque, ils auraient sûrement éprouvé beaucoup de difficultés a donné une liste d'une dizaine de noms, car la sculpture était alors totalement méconnue. Cela tient à de nombreux facteurs. L'image du peintre maudit est très connue du public, peu celle du sculpteur. Et à l'exception des noms de Rodin et Maillol, peu ont franchi à cette époque le cap de la célébrité, peu ont été reconnus. On connaissait très bien Degas en tant que peintre, peu comme sculpteur. Quant à Picasso, on ignorait totalement son œuvre de sculpteur, et si Bourdelle était reconnu, des noms comme Rodchenko, Tatlin, Vantangerlo et même ceux de Max Ernst ou Boccioni ne figuraient pas encore aux cimaises des musées. Enfin, si la condition des peintres était à cette époque très précaire, celle des sculpteurs était dramatiquement mauvaise. Le peintre trouve toujours le moyen de s'exprimer le moindre papier est prétexte au dessin. Le support peut être de mauvaise qualité. La peinture à l'huile est certes onéreuse, mais ne revient pas aussi cher que le marbre ou la pierre, sans parler bien entendu des fontes qui sont souvent très si dispendieuses. C'est la raison pour laquelle également de nombreux sculpteurs qui ont travaillé au début du siècle ne verront leurs œuvres réalisées que très longtemps après, 20 ans, 30 ans et même après les années 50. De plus, le peintre peut travailler dans un petit atelier. La sculpture demande quant à elle, dès le départ, l'espace et le matériel. Ainsi, les sculpteurs vivant pour la plupart dans la misère n'ont pu réaliser à cette époque de grandes œuvres. Les commandes également faisaient totalement défaut. Le sculpteur également faisait figure d'artisan, le peintre à cette époque figure d'intellectuel. Enfin, la sculpture occupe un espace, un grand espace, et les salons de l'époque ou les expositions donnaient la partie belle à la peinture. Celle-ci également semblait s'accaparer plus facilement des événements de la vie quotidienne, à les transposer, regardons simplement Guernica, elle semblait traduire la sensibilité plus immédiate de notre époque. De plus, la sculpture, toujours montrée en contrepoint de la peinture, dans des espaces souvent inappropriés, n'a jamais trouvé sa vraie raison d'être, aussi bien dans les musées que dans les villes. Enfin, très souvent, depuis le XVIIIe siècle, et même avant, sa fonction était uniquement décorative, ou une fonction d'appoint. Elle s'est trouvée très souvent assujettie au décor quand elle n'a pas été reléguée au rang de bibelot, certes quelquefois encombrant, ou à la décoration des paquebots de luxe. Cette obédience au décor l'a pour longtemps reléguée dans l'oubli, alors que la peinture occupait tout l'espace, face à des œuvres dont l'importance de la matière ou de la patine d'un bronze rebutait le visiteur. Il est donc vrai que la sculpture, en s'agrippant à des jalons plus solides, mais moins facilement identifiables, aura été le parent pauvre de toute cette époque. Pourtant, depuis quelques années, la sculpture reprend la place importante qu'elle n'aurait jamais dû quitter, et il est certain que l'art du XXe siècle ne peut être jugé sans réévaluer la sculpture, qui occupe une place primordiale, notre jugement actuel ne pouvant pas omettre sa contribution essentielle à l'art moderne et contemporain. En fait, toute la révolution dans la sculpture est venue de ces artistes dont vous découvrez les œuvres dans cette exposition de la Fondation Marc. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces sculptures ne sont pas assujetties à un décor, mais qu'elles sont conçues pour le bouleverser. C'est là la grande rupture après des siècles de classicisme et de convention. Et s'il est vrai que Rodin, à la fin du siècle dernier, marque le vrai départ de la sculpture moderne, c'est tout simplement parce qu'il rappelle avec éclat, avec son Balzac, qui date de 1897 et que vous avez pu voir à l'entrée de l'exposition, que la sculpture peut étonner par sa démesure et qu'elle n'est pas seulement un objet d'appoint. Elle peut et doit vivre désormais par elle-même. Les mouvements de danse de Rodin signalent avec éclat que son œuvre, même si elle se rattache à une certaine tradition et à une conception qui a peu varié depuis la Renaissance, est traitée avec une liberté totale et une rapidité apparente qui donne à sa sculpture un nouveau pouvoir de suggestion. Bourdel, Maillol, Matisse obéissent également en ce début du siècle, et malgré la difficile comparaison de tempéraments si différents, à une sculpture qui puise encore ses sources dans la statuaire. Mais la manière de travailler la terre glaise par touches plus larges permet à Degas de saisir et de capturer un geste en action. Renoir ou Maillol, quant à eux, immortaliseront l'éternel féminin. Par cette beauté épanouie et calme, ils renouent ainsi avec les grandes figures du passé. On peut parler à ce moment-là d'une tendance néoclassique. Picasso rêve encore de sa période bleue ou rose lorsqu'il réalise La femme se coiffant ou Le fou de 1906. Medardo Rosso, quant à lui, se brouillera définitivement avec Rodin quant à l'antériorité de l'introduction du mouvement impressionniste dans la sculpture. Cependant, il est difficile de concevoir une sculpture impressionniste car la matière utilisée, pierre ou bronze, permettent peu d'incartades. Médard de Rosso le comprendra en utilisant la cire, qui est un matériau plus malléable et plus fluide. Cependant, cette époque avant 1910 ne verra aucune révolution dans les matériaux. Le poids de la Renaissance va être contrebalancé par la découverte de l'art primitif ou préhistorique. On ne peut ainsi oublier, à cette époque, les connaissances récentes qui résultent des fouilles ou des expéditions. Celles-ci, fort nombreuses, ouvrent de nouvelles perspectives à la sculpture, figures cycladiques, pierres travaillées néolithiques, art de la Chine, du Pérou ou du Mexique ou de l'art étrusque. Une sculpture dégagée de la convention sortira de ces nouvelles découvertes, et si l'on ne peut nier également les influences de Gaudi ou de l'art nouveau, ces œuvres ignorées de la plupart et que ne collectionnent pas encore les musées seront déterminantes pour la création de ce siècle. On voit apparaître avec quelque retard sur le mouvement cubiste en peinture une sculpture qui se rattache également à ce mouvement. Les artistes vont désormais abandonner la représentation du corps humain et se priver délibérément de cet appui décisif. L'apparition d'une œuvre comme celle d'Archipenko signale ce changement et apporte une transition. La géométrisation des formes concaves et convexes confère à sa sculpture une rigueur et une monumentalité que l'on semblait alors avoir oubliées, le gondolier en étant l'exemple le plus typique qui date de 1914. Tous, de Picasso à Lawrence, en passant par Lipschitz, vont se livrer à un brassage des formes qu'ils arriveront à disloquer. Ce qui est intéressant, c'est de constater que la peinture cubiste, qui était un étalement, voire un écrasement de la profondeur, permettra quand même à ces sculpteurs de trouver une nouvelle puissance et un nouvel appui. Mais Lawrence ajoutera la couleur à la pierre ou au bois. Désormais, il n'y aura plus l'emploi de la ronde bosse, mais l'emploi de la taille directe sur la pierre, la soumettant à des plans géométriques qui s'enclavent les uns les autres. Vous pouvez voir ces exemples avec le marin à la guitare de Lipschitz, ou la bouteille et le journal, ou le compotier de raisin de Lawrence. Toutes ces œuvres datent des années 1915. Toutefois, cette démarche plus intellectualiste va être contrebalancée par les recherches entreprises dans ce même moment par les futuristes. Des formes nouvelles vont surgir sans précédent historique. La mécanisation a fait son apparition dès la fin du XIXe siècle, donnant à l'artiste un nouveau besoin d'analyse. Il doit dorénavant saisir le mouvement et traduire ce bouleversement optique qui vient de s'opérer. Tout bouge, tout court, tout se transforme rapidement, écrit Boccioni. Les objets, les visages, les formes trouvent une nouvelle dimension. C'est vrai des deux importantes sculptures de Boccioni que l'on peut voir dans cette exposition et qui sont des œuvres extrêmement importantes pour l'évolution de la sculpture moderne. Le mouvement entre définitivement dans ses œuvres de manière décisive. Ceci est aussi vrai pour Duchamp-Villon, qui va ajouter à sa sculpture d'inspiration cubiste des éléments où la machine est omniprésente. Le développement de ces éléments mécaniques, superposés à des éléments pris dans la nature, donne une force exceptionnelle à son œuvre. On peut le constater avec le cheval majeur, qui se trouve à l'extérieur, ici à la Fondation Marc, où il combine des lignes courbes et des lignes droites, qui sont en fait, ces lignes droites, des lignes de force, et qui traduisent ainsi le monde mécanique dans lequel nous allons entrer. Brancusi va ignorer ce domaine pour se consacrer à une démarche personnelle et insolite, qui en fait un des artistes majeurs de ce siècle. Il se souvient plus des découvertes qui ont été apportées par l'art primitif et il retrouve des formes simples qui nous plongent dans les origines de l'humanité, tout comme le fera plus tard et différemment Miro. Ses recherches solitaires le font échapper à toute école. Il travaille le matériau en éliminant tous les détails superflus, en essayant de donner à ses formes une pureté et une simplification extrêmes, qui sont uniques en ce début du siècle. Il ajoutera à cela le travail infini du polissage, nous donnant à la fin l'impression d'une forme absolue qui s'impose définitivement à notre souvenir. C'est vrai de la princesse Styx ou de mademoiselle Pogani qui vont à l'essentiel. Toutefois, ces artistes emploient encore des matériaux traditionnels. Aussi, l'apparition de Calder, Gonzalez, Gargallo va révolutionner l'idée que nous avions de la sculpture. Le fer ou les matériaux de récupération vont apparaître. Gargallo va employer le procédé du repoussé. Il ajuste et découpe le métal, transforme le volume en le creusant. L'œil est ainsi obligé de se déplacer dans ces nouvelles formes où la lumière trouve une nouvelle place. Gonzalez va employer des matériaux de récupération et introduire la soudure à l'autogène dans des formes acérées et austères qui caractérisent son œuvre. La sculpture est ainsi libérée des matériaux traditionnels. Cet artiste occupe une place prépondérante dans la création et de nombreux artistes contemporains ont suivi la voie qu'il avait tracée. Calder se rattache également à cette révolution de la forme et de l'espace, mais il ajoute à cela l'introduction du mouvement. Marcel Duchamp donnera le nom de mobile à ces constructions qui sont mues par l'air. L'art de Calder apparaissait à ce moment-là comme du bricolage, mais c'était en fait un bricolage de génie. Il ajoutera très rapidement à ses œuvres l'emploi du moteur. Désormais, nous n'aurons plus à tourner autour de la sculpture, c'est la sculpture elle-même qui investira l'espace grâce à son propre mouvement. Cette simplification apparente à laquelle Calder ajoute le jeu lui donne une place historique dans la sculpture du XXe siècle. Il sera suivi également dans ses recherches sur les matériaux dits pauvres par David Smith en Amérique, qui emploiera également le fer ou l'acier. L'évolution de la sculpture ne peut ignorer cependant la place prépondérante occupée par des artistes comme Giacometti, Max Ernst, Miro et Marcel Duchamp. Ils vont, eux aussi, abandonner la représentation de la figure ou du corps humain pour consacrer leur recherche à l'imaginaire. Désormais, l'objet deviendra sculpture, l'objet de tous les jours avec Marcel Duchamp. Vous en avez les exemples avec le porte-bouteille et la roue de bicyclette, qui sont des repères décisifs. La sculpture se trouve ainsi désacralisée et prouve que des objets utilitaires ont une beauté nouvelle dès lors qu'elles se trouvent métamorphosées par l'artiste, qui nous permet de redécouvrir leur présence. Miro et Max Ernst vont introduire dans la sculpture ce qui paraissait jusqu'alors totalement lui manquer, l'ironie et l'humour. Ils vont assembler des objets hétéroclites ou créer par l'imagination les nouveaux totems de notre époque. Giacometti les suivra dans cette voie où le modèle est totalement ignoré. On peut dire que la plupart des jeunes artistes travaillent encore sur ces innovations de cette époque surréaliste. Harpe, cependant, occupera une place à part, et si on peut le rattacher au domaine surréaliste, son œuvre utilise néanmoins des figures insolites et symboliques. Il traduit à l'aide de la ronde bosse un nouveau corps humain, le torse de 1931, tout ceci dans un mélange étonnant fait de configurations organiques et de puissance architecturale, la croissance de 1938. Les formes épurées qu'il nous livre semble venir du fond de la mémoire humaine. Mais dans ce parcours sur la sculpture du XXe siècle, toute une génération d'artistes a été ignorée de la plupart du grand public et des conservateurs pour une raison très simple, c'est que ces artistes qui vivaient en Russie ont eu peu de chances de montrer leurs œuvres ou dans leur pays ou à l'extérieur lorsqu'ils ont émigré. Qui en fait se souvient de noms comme Tatlin, Molinadji, Kobro, Stenberg, Rodchenko. Ces sculpteurs vont apporter une véritable révolution. Le concept de nature qui a toujours fourni à la sculpture ses bases et le contenu même de son évolution sera ignoré par les chercheurs, les ingénieurs que sont justement les constructivistes. Un monde à la limite de l'abstraction fait alors son apparition. Mais peut-on parler d'abstraction en sculpture par la concrétisation même de la matière. Gabot et Pevsner, qui étaient frères, ont écrit en 1920 le manifeste du réalisme. Tatlin, Molinage, Kobro, Stenberg, Grotchenko vont employer les matériaux les plus modernes de l'époque, plastique, fer, acier, verre, dans des constructions spatiales au caractère géométrique, où la lumière intervient et joue sur les espaces ainsi créés. La sculpture, dès lors, s'aère, la transparence apparaît ainsi que le mouvement. Ils seront tous les artisans de cette révolution, peut-être la plus importante depuis la Renaissance dans l'évolution de la sculpture, et où l'architecture puisera de nombreuses sources. L'emploi de nouveaux matériaux opère ainsi un radical bouleversement dans une tradition établie depuis la plus haute antiquité. La pierre, le marbre, le bronze, qui avaient acquis leur lettre de noblesse, seront relégués pour un moment dans l'oubli, ou bien trouveront une nouvelle vocation. Dans ce monde en mutation, où l'art devient alors presque fonctionnel, le développement de l'industrialisation crée de nouvelles agressions. Le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel, dont parle Blaise Cendrars, ils le ressentent tous. La réalité de notre siècle est la technologie, écrit également Molinage, dans cet art non objectif, matériaux, volumes et constructions sont érigés en fondement. Tatlin. Toutefois, cette forme d'abstraction va se trouver contrebalancée par des recherches qui vont conduire à une nouvelle figuration. En effet, vers les années 1930, Matisse, Lorenz, Lipschitz, Marino Marini, Picasso reviennent à une certaine tradition. Le bronze retrouve ses droits, les œuvres annoncent déjà une nouvelle tendance, un nouvel équilibre. Les formes pleines de sensualité et d'harmonie de Lorenz répondent à celles de Matisse, l'expressionnisme baroque de Lipschitz répond à celui de Zadkine ou de Braque. Le classicisme de Marino Marini voisine dès lors avec la verve sans cesse renouvelée de Picasso. Le premier trou creusé dans une pierre fut pour moi une révélation, écrit Henry Moore, et son œuvre, influencée par les découvertes de l'art précolombien, se développe sur la variation du thème de la figure étendue. Une virtuosité dans l'équilibre entre la matière et le vide, une grandeur même dans les petites pièces, marque son œuvre, qui trouvera son épanouissement après la guerre dans des réalisations monumentales. Dans ce panorama de la sculpture de la première moitié de ce siècle, il est intéressant de noter que de nombreux sculpteurs sont également des peintres. Citons par exemple Matisse, Picasso, Miro, Max Ernst. Leur rapport a été considérable car il y a eu une évolution parallèle entre leur œuvre de peintre et de sculpteur. Très souvent, leur démarche de peintre leur a permis de réaliser conjointement des sculptures qui, apparemment à cette époque, passaient simplement pour des objets ou pour un divertissement. En fait, leur apport est considérable, car ils ont donné à la sculpture une rapidité d'exécution qui était directement liée à leur recherche de peintre. Le fait d'assembler des objets différents en les superposant, en les assemblant, va donner à la sculpture un esprit inventif qui lui manquait. Très souvent, le sculpteur se trouve dans la même position que l'architecte. Il doit attendre longtemps avant de voir le propre résultat de ses recherches. C'est vrai lorsqu'il travaille un matériau traditionnel comme la pierre, mais c'est aussi vrai lorsqu'il réalise un plâtre ou qu'il travaille de la terre glaise et qu'il doit attendre le résultat du fondeur. Les peintres qui sont devenus sculpteurs s'attarderont rarement à cette réalisation plus lente et confondront plus spontanément leur recherche picturale et sculpturale. Durant ces 45 années, en effet, tout a été bouleversé par les deux guerres mondiales auxquelles ont pris souvent part les artistes de ce temps. Beaucoup ont payé de leur vie même ces moments si difficiles et tout a été irrémédiablement modifié. L'appréhension de la réalité ne devait plus jamais être la même. L'année 1945 marquera pour eux un nouveau départ, une autre génération de sculpteurs fera son apparition, des moyens différents seront mis en œuvre et la sculpture retrouvera alors une nouvelle dimension dans l'environnement et l'architecture. Nous organiserons dans 2 ans ou 3 ans à la Fondation MAG une nouvelle exposition de sculpture qui regroupera les sculpteurs qui ont travaillé depuis les années 1945. Certains qui figurent dans cette exposition seront présents puisqu'ils ont continué leur œuvre bien après la Deuxième Guerre. Et toute une nouvelle génération d'artistes sera présentée à ce moment-là. Et j'espère que ce sera l'occasion d'établir une nouvelle collaboration avec la Fondation Marc et de présenter peut-être ici même ce deuxième volet de la sculpture entre 1945 et 1980. Je voudrais vous remercier. Si vous avez des questions à me poser, je suis prêt à y répondre.